Merci beaucoup. Eh bien, moi, le plaisir d'être avec vous ce matin, c'est vrai que j'ai passé quelques années. Je faisais un calcul rapide, ça fait plus de 30 ans. Hein, j'avais 22, 20, 25 ans, là, et j'ai passé mon temps rue du professeur Joliet à Arcachon. J'ai retrouvé Guy Bachelet tout à l'heure dans la salle, là, où j'ai fait une thèse, effectivement, sur les hormones qui contrôlaient le déclenchement de la migration chez les saumons. Et je passais mon temps, à l'époque, j'avais une petite Sim Camille, et je passais mon temps à faire le trajet entre Brest et Arcachon. Alors, il y avait le vélo, parce que je faisais beaucoup de vélo, le vélo sur le toit et le lit du bébé sur le toit. Et on faisait sans arrêt comme ça les allers-retours. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Je ne vous raconte pas les queues de voitures Ponce et Archambault. Ça me rappelle des histoires à l'époque, pour ceux qui sont en ce cas dramatique, de circulation entre la Vendée et le Pays Aquitain. Donc, oui, alors c'est vrai que moi, j'ai répondu à la sollicitation de Denis, qu'on s'est croisé à plusieurs reprises. Et j'aime bien ce que vous faites, donc j'avais envie de venir vous soutenir et de vous raconter une histoire qui va un peu ressembler d'ailleurs à la leçon inaugurale, parce que j'ai eu la chance de préparer cette leçon il y a quelques jours, hein, ça fait un mois, et donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de bibliographie. Vous savez, une leçon inaugurale au Collège de France, c'est quelque chose de très particulier dans une vie, hein. D'abord, ça n'arrive pas à tout le monde, puis surtout, quand vous devez la préparer, il me disait, mais les gens sont terrorisés, ils n'en dorment pas 3 mois avant. Moi, j'étais très excité, je voulais absolument y aller, présenter ma leçon. Et une heure avant, je n'étais pas excité du tout, sauf l'envie de la présenter. Donc, je vais reprendre des éléments pour vous en parler aujourd'hui. Mon propos, c'est, en fait, si j'ai accepté, moi, je suis vraiment un pur chercheur, hein, je ne suis pas quelqu'un attiré par l'administration, il en faut, mais chacun son rôle. Et si j'ai accepté, sous les pressions très fortes de Valérie Pécresse en 2008, de prendre la présidence du Muséum national d'histoire naturelle, c'est parce que je savais qu'arrivait l'année 2010, qui allait être dédié mondialement par les Nations Unies à la biodiversité. Alors je me dis, bon, allez, si on va me chercher, je pourrais l'ouvrir, dire ce que je veux. Je suis venu, et ça a démarré par un article dans le JDD que vous pouvez retrouver au début du janvier 2010, et surtout la conférence de l'UNESCO, que j'ai ouverte à Paris les 25 et 26 janvier 2010, pour constater que ce qu'on avait proposé à Johannesburg en 2002, tous les chefs d'État étaient réunis, on avait dit, voilà, en 2002, on s'engage à fortement freiner, l'Europe rajoutera « arrêter », l'érosion de la biodiversité pour 2010. Et je faisais un cours à l'École normale supérieure, c'était le 23 décembre 2009. Et j'ai mes étudiants, c'est fabuleux. Dans quelques jours, nous allons vivre ensemble un événement unique, l'arrêt de l'érosion de la biodiversité. Et je les revois le 3 janvier 2010, à tout rater. Et vous allez voir, totalement confirmé par la conférence de l'UNESCO, qui constate effectivement que... Alors là, je vois la réactivité d'Homo sapiens, ça me plaît beaucoup. Homo sapiens réfléchit un peu, dit oui, on a tout raté. Bon, c'est pas grave. Hein. On remet l'échéance 2020, parce que 2019, ça fait pas terrible. Donc 2020, on aura arrêté l'érosion de la biodiversité. Alors j'aurais dit, écoutez, moi je veux bien, mais expliquez-moi comment vous allez réussir entre 2010 et 2020 quelque chose que vous avez été absolument incapable de faire entre 2002 et 2010. Et je dis en plus, alors là aujourd'hui, on est quoi, je sais pas, on est le 20, je sais pas combien, de janvier 2014, c'est bien pire que le 1er janvier 2010. Donc, va-t-on réussir la dernière semaine de 2019 ? Bon, simplement, c'est pour vous montrer qu'on est excellent pour faire des conférences. Homo sapiens, il est génial pour faire des conférences. De là, maintenant, à appliquer sur le terrain ce qu'on a envie de faire, c'est autre chose. Et c'est là qu'est le débat aujourd'hui sur ces relations, justement, entre ces questions environnementales et puis les questions économiques qu'on va aussi aborder. Alors, je termine donc ce préambule en disant que j'étais venu pour 3 questions en 2010. Première question, je voulais expliquer au public c'est quoi la biodiversité ? Et je vous reprends un petit peu. Vous verrez que ce n'est pas ce que vous croyez être pour beaucoup d'entre vous. Ce n'est surtout pas des listes ou des catalogues d'espèces. Ce n'est vraiment pas ça, la biodiversité. Deuxièmement, pourquoi il faut qu'on s'en préoccupe ? Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, après mon dauphin du Yangtze, là, m'ont dit, mais moi, je m'en fous du dauphin du Yangtze. J'en ai rien à cirer. C'est un machin qui vivait en Chine. Il appartenait aux Chinois. Il est parti. Ça ne change pas ma vie. À voir, à voir. Et on pourra revenir sur ces considérations-là. Et puis, la troisième question qui était très forte pour moi, c'est que surtout, on s'en préoccupe, mais on n'arrête pas. Le 31 janvier 2010, l'année dédiée à la biodiversité. C'est comme vous savez, il y a beaucoup de femmes ici dans l'Assemblée. Vous avez eu, il y a une quinzaine d'années, l'année mondiale de la femme. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Expliquez-moi un petit peu. Hein ? Parce qu'on a totalement arrêté de s'en préoccuper à ce moment-là. C'est pareil pour la biodiversité. Et là, donc, on a dit, on pousse le combat plus loin. Alors, ils m'ont dit, bon, alors d'accord, on met en place la décennie concernée par la biodiversité. Donc, nous sommes dans les 10 années 2010-2020 dédiées à la biodiversité. Et j'étais à Rio l'an dernier. On l'a complètement oublié. On n'en a pratiquement pas parlé. On a oublié l'océan. Le seul aspect un peu nouveau qui est arrivé dans les débats, c'est l'histoire du tourisme, de l'écotourisme et de l'impact du tourisme sur les questions de biodiversité. Donc, alors mes propos aussi, au départ, je ne suis pas du tout un catastrophiste. On a même dit dans Le Monde avant-hier que j'étais optimiste. Bon, ça, c'est eux qui ont mis ça. J'aurais pas mis ça comme titre, mais enfin, disons, réaliste, raisonnablement optimiste. De toute façon, restons-le, sinon on ne ferait rien du tout. Donc, simplement, mes propos sont là pour réveiller les publics. Je ne suis pas du tout un catastrophe, je suis un donneur d'alerte. C'est mon rôle en tant que scientifique, en tant que président du muséum. C'est ça notre travail aujourd'hui. Avec le monde associatif, avec le monde politique, bien entendu, on discutait encore hier soir avec Monique, évidemment, le chercheur, il apporte des éléments, le monde politique prend les décisions, chacun son rôle, il ne faut pas les mélanger. Et enfin, bien sûr, tout ce qui concerne aussi la vie des gens de tous les jours, et je mets l'entreprise dedans, hein, on va parler beaucoup d'économie, je ne vois pas comment aujourd'hui on va résoudre nos questions si l'entreprise n'est pas partie prenante très forte dans la société civile des questions qu'on pose ici. Les gens passent plus de temps dans leur entreprise qu'ailleurs. Hein. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de voir un petit peu de façon générale. Alors, c'est quoi la biodiversité ? Ici, nous sommes en 2006, 150 chercheurs du muséum et des collègues étrangers, dans une petite île de l'archipel du Vanuatu qui s'appelle Espiritu Santo, entre les Salomons et puis, au nord de la Nouvelle-Calédonie. Et là, en fait, on fait un inventaire de diversité. On a choisi quatre écosystèmes qui sont la mer, bien sûr, hein. Moi, je vais toujours en face de la mer, je resterai toujours un marin. On fait la forêt pristine à violet. On a failli mourir de faim, d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien à bouffer dans une forêt tropicale, absolument, où il n'y a rien. On est sur des montagnes complètement impénétrables. Ensuite, le karst. Il y a beaucoup de karst sur l'île d'Espiritu Santo. Et enfin, les jardins. J'étais très intéressé par les jardins, parce qu'on va dans les jardins. Les Lapitas découvrent l'île il y a 3000 ans. Donc, des humains arrivent de Taïwan sur des bateaux, découvrent l'île, l'archipel du Vanuatu, vont s'installer sur Espiritu Santo avec leurs animaux domestiques. Ils ont des cochons, ils ont des poulets avec eux. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous aujourd'hui de voir 3000 ans après, on a la situation de la diversité entre des zones où il n'est pratiquement jamais rentré et des zones effectivement où il est extrêmement prégnant et puis installé. Et juste une anecdote là-dessus pour vous montrer le genre de monde dans lequel on vit. Alors quand j'arrive, en fait, bien sûr, le Premier ministre est là. Moi, je lui ramenais sa biodiversité. Je suis allé donc il y a 2 ans et je ramenais les espèces qu'on avait trouvées. Je ramenais 487 plantes d'Espiritu Santo qu'on rendait au gouvernement du Vanuatu. Je ramenais des coléoptères, je ramenais des poissons. Et je rendais ça au Premier ministre qui me dit, ben, je vous remercie beaucoup. Il me dit, vous avez mis combien de temps pour venir ? J'ai mis 3 jours. Moi, j'avais fait Perpignan, Paris, Hong Kong, Melbourne, Nouméa, Port Vila et la petite île d'Espiritu Santo. J'avais mis 3 jours. Eh bien, merci beaucoup, c'est fantastique. Et il y avait un petit monsieur avec lequel j'avais discuté juste avant, un tout petit bonhomme comme ça, il avait un survêtement Adidas, je ne savais pas que c'était arrivé jusque-là. Et c'était le maire d'un tout petit village de la forêt pristine dans laquelle on était allé. Il avait mis 3 jours pour revenir. Et lui, il avait fait peut-être 150 kilomètres. Il avait marché 2 jours dans la forêt, tout seul, sans piste. Il est arrivé sur la côte. Un petit bateau était allé le chercher pour l'amener à une route. Une voiture était allée le chercher pour l'amener. Donc on avait mis le même temps, moi pour venir de Bagnols-sur-Mer, lui pour venir de son petit village de la forêt pristine d'Espiritu Santo. C'est ça le monde moderne aujourd'hui. Donc quand on met ça l'un à côté de l'autre, ça nous permet de réfléchir bien sûr beaucoup plus près. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On pouvait trouver des micro-crustacés, on pouvait trouver jusqu'à 30 espèces nouvelles par jour. On fait des catalogues d'espèces, il y a énormément d'espèces à trouver. En gros, aujourd'hui, alors, je peux quand même vous le dire en préambule, nous connaissons un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes. Ça, maintenant, c'est bien travaillé. Je préside un des 3 plus grands musées du monde, un peu plus de 2 millions d'espèces connues. Je mets tout dedans, hein, les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons, les plantes et les animaux. L'humain dedans aussi, un peu plus de 2 millions. La question, c'est combien il y en a réellement ? Alors là, on a beaucoup travaillé là-dessus, il y a plein de papiers qui sortent. How many species on the earth, on the ocean? Tous les 3 mois, vous avez des papiers comme ça, les gens réfléchissent, brainstorm. C'est extrêmement large comme gamme. En gros, allez, je pense qu'on est quelque chose comme aux environs de 15 à 20% connus aujourd'hui. Et ça, comment on peut le préciser? Grâce au séquençage d'ADN qu'on fait massivement, soit dans l'océan, soit dans une goutte d'eau de mer, oui, l'océan, soit dans des sols de forêt, soit dans le biome intestinal humain, dans les bactéries qui vivent dans le tube digestif. En gros, on trouve toujours quelque chose comme 15 à 20% de séquences d'ADN connues dans les banques et 80% qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer sur la Terre aujourd'hui, nous accompagnons encore quelque chose comme entre 10 et 20 millions d'espèces. Et là, c'est intéressant parce que j'ai regardé depuis 15 ans, qu'est-ce qu'on décrit ? C'est mon boulot dans un musée. On décrit à peu près entre 16 000 et 18 000 espèces nouvellement connues par an. Alors faites le calcul, 20 millions peut-être, on en connaît 2, il y aurait 18 millions, divisé par 18 000, il faut 1000 ans. 1000 ans au rythme actuel, simplement pour décrire les espèces qui nous accompagnent encore. Or, on sait bien qu'au rythme actuel de destruction des écosystèmes par l'humain, on aura perdu la moitié à la fin de ce siècle. Donc c'est une course contre la montre qui est perdue de toute façon. Il faut qu'on fasse autre chose que cela. Alors, bien sûr, les musées vont continuer à décrire des espèces, c'est intéressant. Quand on promulgue des lois, on va parler un peu de lois aussi, c'est vrai, on vous dit on protège l'os moderma eremita, la terreur des X-Ponts. Hein. On arrête une autoroute avec un petit scarabée gros comme ça, une cétoine noire, hein, qui a arrêté les autoroutes de l'ouest de la France. Pour eux, c'est impensable. Mais vous rigolez, on vit où, là? Dans quel monde est-on? Un scarabée comme ça qui arrête une autoroute, c'est pas possible. Moi, le roi du béton, bah oui. Pour des raisons de loi, effectivement. Et quand Patrick Blandin du Muséum sort le Os Moderma Eremita, que personne ne connaissait, hein, et bien il le fait simplement en réponse au mépris. Et c'est là que les discussions sont intéressantes en ce moment entre les différents mondes. Hein. Il répond au mépris de gens qui font des autoroutes sans se préoccuper absolument pas de l'environnement à l'époque. Et vous verrez que, à ces propos que je vais tenir ce matin, j'ai toujours deux types de réactions. Le déni, ça, c'est très fort, hein. Y compris les scientifiques. Hein. Il y a des scientistes incroyables que vous connaissez tous, je ne vais pas les citer. Hein. Ce n'est pas vrai. De toute façon, l'humain est absolument génial. Il n'est plus dans le système, il est sorti. Il va trouver de quoi s'adapter très vite. Quand on était effectivement quelques centaines de milliers, on est 7 milliards de manœuvres. Hein. Il faut qu'on en tienne compte. Et la triche. Je dis souvent, il y a beaucoup de femmes ici dans la salle encore. Il n'y a aucune femme aujourd'hui qui lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1985. Intéressant, ça. Une femme au monde a couru un 100 mètres en 10-5. Elle est morte à 37 ans. Donc ça veut dire qu'on peut s'amuser à ce genre de choses. Maintenant, on a modélisé tous les records du monde, en athlée, en vélo, en tennis, tout ce que vous voulez. C'est très, très beau. On a tout ça. Internet est génial. On trouve tout ça. Tous les temps, de tous les types qui ont fait le marathon de Chicago depuis que ça existe. C'est extrêmement intéressant. Hein. On regarde des effets avec des paramètres très simples. La température à laquelle s'est couru le marathon. C'est fantastique sur les performances. S'il s'est couru entre 6 degrés et 29 degrés il y a 4 ans, les gens sont entraînés, donc ils préparent leur marathon, ils courent, ils le finissent. Il y a 4 ans, à 29 degrés, ils sont 35% à l'arrivée, il y a 4 morts. Alors quand on dit, ben, l'humain, vous savez, de toute façon, il est en dehors de ça, l'écologie, c'est bon pour les bestioles, c'est pas pour les humains, moi je suis homo sapiens, donc tout... Bon, j'ai dit, pourquoi vous avez 4 millimoles de potassium dans votre sang? Notre sang, ce matin, à tous, là, c'est exactement l'eau saumâtre d'un estuaire. C'est 11 millimoles de potassium, c'est 110 millimoles de chlorure. Pourquoi est-ce que j'ai du sodium dans mon sang? Pourquoi est-ce que j'ai une glande thyroïde ici qui me colle de l'iode? L'iode est un atome marin qui n'a rien à faire dans un truc aussi supérieur qu'Homo sapiens. Et cette animalité qu'est l'humain, bien sûr, dans sa physiologie, hein, il y a bien une médecine pour quelque chose, il faut toujours la tenir en compte. Et c'est vrai que mon principal combat, c'est l'arrogance. Alors l'arrogance du mâle blanc européen devenu américain, je ne vous raconte pas où elle est rendue. Hein, mais ce n'est pas mieux que c'est les Chinois aujourd'hui. Les femmes, c'est différent. Donc on est sur quelque chose où... On est au-dessus, et je vais tout réinventer. La biologie de synthèse actuellement. Un type me disait récemment qu'il y avait une grosse boîte de biotechnologie à Hong Kong. Moi, je vais tout refaire. J'en ai ras-le-bol des moustiques qui m'embêtent. Hein. Mon pastis, je ne peux pas le prendre à Arcachon le soir parce qu'il me pique, là. Eh bien, on vire tous les moustiques, on vire tout ce qu'on n'aime pas, on clone ce qu'on va garder, parce qu'on va garder des trucs, quand même. Et puis alors, les types, ils imaginent qu'en prenant effectivement, je ne sais pas, ils font des biobriques. Alors ça, j'adore les biobriques, hein. La biologie de synthèse. La chimie de synthèse, oui, mais la biologie de synthèse. Alors, une biobrique, c'est quoi? C'est un récepteur à la prolactine, une protéine transporteuse de chlore, de l'albumine, je shake ça et je fais un papillon. Des gens croient profondément à ça et ont de l'argent pour faire ça aujourd'hui. Les post-humains, c'est ça en ce moment. Donc, gardons raison. Hein, soyons beaucoup plus humbles que cela et vous verrez, on serait bien mieux capable de comprendre ces discours et après de mettre en place, en se retroussant les manches, il y a beaucoup de travail, hein, des solutions pour régler les problèmes que l'on a. Alors, je vous ai mis ici, ça c'est chez moi, c'est Bagnols-sur-Mer, un petit village catalan, où vous avez effectivement des fonds à 2 km ici. Et vous avez le Canigou ici à 3000. Donc sur moins de 50 km, vous avez 5000 mètres de différence. Donc vous imaginez l'immensité du nombre de niches écologiques qui existent. Hein, et vous avez là-bas une monoculture de la vigne. On fait que ça. Hein, ça c'est, et ce n'est pas les mêmes cépages que chez vous en Bordelais. Hein, ça ne marche pas très bien ici. Et nous, on est plutôt sur les Syrahs, les Grenaches, évidemment, les Mourvèdres, les Vermentino. C'est ce qu'on fait. Il fait chaud. Et pourtant, chaque mètre carré qui est là vous donne un vin différent. Vous voyez que cette biodiversité, ce n'est pas uniquement le fait de compter les espèces. J'ai qu'une espèce, c'est la vigne. Ils ont tout massacré le reste, les Homo sapiens. Il reste quelques chênes verts, quelques chênes lièges. Mais en diversité d'insectes, hein, c'est nul ici. Hein. Là, quand je vais là-dedans, c'est magnifique. Mais là, il n'y a plus rien. Tout est bouffé. Et pourtant, une seule plante qui est la vigne nous donne une diversité extraordinaire. Et là, je vous y mène un écosystème que j'aime beaucoup. C'est un tube digestif du bébé humain à la naissance. On a tous été bébés humains à la naissance, hein, les filles et les garçons. Là, il y a une égalité totale. Une maman nous a mis au monde. Et quand cette maman nous met au monde, les bactéries du tube du tractus génital de la maman se précipitent et, dans le bon sens du terme, vont contaminer ce bébé. Un bébé humain, il met 2 ans. 2 ans à stabiliser sa propre flore. Nous sommes tous issus d'une fécondation croisée. On a un papa et une maman. Nous sommes uniques, on peut bomber le torse. Même si on a des frères et sœurs, on est différents d'eux. Même des vrais jumeaux ne sont pas aussi clairs que ça, exactement les mêmes. Ce qui veut dire qu'on est sur quelque chose où Ces bactéries se sont installées. Alors, on a fait un séquençage massif là-dedans il y a quelque temps. On a trouvé la place pour un peu plus de 1000 espèces de bactéries. Et on en connaît 480. Donc, sur un écosystème aussi incroyablement proche de nous, il est au sein de chacun d'entre nous, on ne connaît même pas la moitié des espèces. Alors, comment voulez-vous prétendre demain connaître les espèces de la forêt tropicale amazonienne ou des fonds océaniques ? Et je vous ai mis un désert ici en Arabie où il n'y a pas grand-chose. Et l'humain, maintenant, il vit là-dedans. C'est ça qu'il a inventé. Donc, on est passé effectivement d'un océan ancestral à une diversification quand la vie sur des océans vers la forêt, et après, bien sûr, à la cité. Et voilà pourquoi j'ai appelé cette conférence-là, l'autre jour au collège, comme ça. Biodiversité, on va revenir à ce que disait tout à l'heure. L'or, c'est effectivement ici un caillou que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il est unique, ce caillou. C'est une météorite qui est tombée à Orgueil, dans le Gers, il y a 150 ans. Quelqu'un l'a ramassé, il a fini dans une caisse à oignons à Paris, au muséum, je ne sais pas pourquoi et quand. Il y a quelques temps, on l'a retrouvé. C'est ça le muséum aussi, il y a des trucs à faire, je ne vous raconte pas. Et un type trouve ce caillou et puis il dit quand même bizarre, il est intéressant, c'est bien une météorite. Alors on la regarde, maintenant on a des moyens fabuleux. Hein. On fait des coupes fines là-dedans et on mesure les isotopes du chrome. Date 4600 millions d'années, 4,6 milliards. Ce caillou est contemporain de la mise en place de la Terre. Alors là, c'est ça l'intérêt d'un grand muséum. D'ailleurs, je dis souvent aux hommes politiques, ils disent, le muséum, ça sert à quoi vos collections ? Mais je dis, regardez, ce machin, c'est moche comme tout. Mais quand je vous raconte son histoire, vous en pleurez, en fait. C'est ça, le système. Ce caillou est contemporain de la mise en place de la Terre. Il est tombé sur la Terre, déjà, première chance. On l'a retrouvé, en plus. Et on l'a analysé. Donc, il y a une géodiversité antérieure. Et souvent, on me dit, au niveau du monde associatif, je suis souvent accroché avec eux, ils me disent, ouais, de toute façon, maintenant, avec ta biodiversité, tu nous empoisonnes l'existence. Hein. Avant, moi, j'étais à source de protection de la nature. Ce n'est pas synonyme. La biodiversité n'est que la fraction vivante de la nature, ce que je vous ai mis ici. C'est ma meilleure définition que j'ai pu trouver. Hein. J'ai écrit ça il y a quelques années. La biodiversité, c'est la partie vivante de la nature. Mais il y avait une géodiversité avant. Il y avait un océan. Conseil maintenant extraterrestre, d'ailleurs, aussi, l'humidité prend aussi un coup. Les gouttes d'eau de l'océan ne sont pas terrestres. Hein. Il y a une signature en deutérium dans l'océan qui nous montre qu'ils viennent de comètes, hein. Ils viennent effectivement de météorites tombées sur la Terre, qui ont bombardé la Terre entre 4, 6 et 4 milliards d'années. L'océan se forme, se condense, la vie y apparaît, et la biodiversité commence le jour où la première cellule ancestrale issue de cette chimie-là se clone. Hein. Un clonage, c'est quoi ? C'est se couper en deux, en 4, en 8, en 16, et là, vous avez effectivement la biodiversité qui démarre. Et je vous ai mis deux écosystèmes très riches, les plus riches sur la planète aujourd'hui. Sur les continents, ce sont les forêts tropicales. Ça, c'est la forêt impénétrable de Bouindi, où je suis allé il y a 2 ans à la frontière entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, où vivent les derniers 800 gorilles de montagne, ils s'en vont, partent. Indifférence générale aussi, pareil, c'est comme au dauphin du Yangtze-Kiang. Hein. Tu vois, c'est un peu plus aux gorilles, mais bon. Et je vous ai mis ici, donc là, on peut trouver 50 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Les coins les plus riches qu'on a trouvés, c'est la forêt colombienne, à 1000 mètres d'altitude entre l'Amazonie et les Andes. Vous pouvez, je prends le cas des arbres, on connaît bien les arbres, hein, c'est des groupes très connus. Il y a 127 espèces d'arbres de Brest au Japon. Et ça, on ne trouvera pas beaucoup d'autres. Hein. On les connaît bien, on les a bien travaillés. Sur 1 km² de forêt colombienne, 700 espèces d'arbres. Et sur un arbre de Colombie, 700 espèces de coléoptères. Ça, c'est la diversité spécifique, bien entendu. Après, la question qu'on pose, bah oui, mais ça sert à quoi ce truc-là et pourquoi c'est comme ça ? Alors en plus, ça pose des questions fantastiques qui gênent beaucoup les écologues et les gens du ICN aussi parce qu'ils travaillent par espèce. Hein, on dit, moi j'en dis, vous savez, entre le coléoptère 32 qui a une dépression dans le 4e article de l'antenne droite par rapport à celui d'à côté, je doute très fort qu'il y ait une fonctionnalité différente dans l'écosystème. Et donc, il faut qu'on arrête de travailler par ces séries d'espèces, il faut qu'on travaille sur la fonctionnalité. Et vous comprendrez vite que je suis beaucoup plus un défenseur de systèmes, d'écosystèmes que d'espèces, bien entendu. Alors après, on me dit qu'il y a des espèces remarquables. Pas du tout, ça, c'est du pipeau, ça. Et des espèces remarquées par l'humain, c'est un peu différent. Hein. Moi, j'aime le panda, j'aime le tigre. Mes amis des ONG, tout ça me disent, tu comprends, moi, si je ne défends pas le tigre et le panda, que je défends le moustique des Galapagos, je n'aurai pas un rond, de toute façon. Donc, je prends une bête qui va plaire avec des beaux yeux bleus et des grands cils. Et ça, ça plaît bien. Et le but, pour nous, ce n'est pas ça. C'est vraiment la diversité, qu'après, on a appelé ordinaire, j'aime pas trop le terme non plus, ou général. C'est tout ce qui est là. C'est les bactéries dans mes cheveux. Dans les oreilles de Justine, et on est beau quand même, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on ne serait pas beau du tout si on ne les avait pas. J'ai dit ça à mes étudiants, amusez-vous un matin à prendre un gros morceau de papier collant et vous le collez dans votre lit, même avec des draps propres. Hein. On fait la manip, ça marche très bien. Vous collez un gros morceau de sparadrap comme ça, vous le ramenez au labo, vous le passez à la binoculaire. Ça grouille de trucs, hein, avec des épines, des poils, des pinces, des machins. Donc, on est dans la biodiversité. Et si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas bien du tout, en fait. Hein. Un humain, je dis souvent un corps humain, là, le mien ou le vôtre, c'est au moins 10 fois plus de cellules non humaines que de cellules humaines. Donc dès qu'on a admis ça, ah ben, ça change beaucoup la vision qu'on a de la biodiversité. Hein. Alors qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui ? Alors dans l'océan, c'est le récif corallien. Les récifs, ils font quoi ? 2,5% de la superficie des océans et ils ont un peu plus de 30% des espèces vivantes connues aujourd'hui. Donc très morceau, très riche. Et on connaît aujourd'hui un peu plus de 27 millions d'espèces sur les continents, un peu moins de 300 000 dans les océans. Alors ça pose une question, je n'ai pas tant développé aujourd'hui, mais pourquoi il y a si peu d'espèces dans l'océan, alors que l'océan, c'est 99% du volume offert à la vie ? Et ça, c'est lié à sa stabilité et à son histoire. Voilà, c'est ça la biodiversité. Alors quand je fais ça, je montre ça en Chine, aux États-Unis, ça marche. Alors c'est pas le panda hein, ou le tigre, c'est ça la biodiversité. Et ça, vous en avez besoin. En plus, un Frenchman, quand il raconte ça, qu'est-ce qu'on serait sans notre pinard, notre fromage et notre pain ? On ne serait pas là, on n'existerait pas. Et ce sont des zones à la diversité biologique, et l'humain utilise ça depuis très longtemps, en fait. Hein. C'est Bernard Chevassieu, lui, qui avait fait ce montage-là, avec Jacques Weber, que citait tout à l'heure notre ami dans son introduction. Et puis, l'humain a remarqué des espèces. Elle n'est pas remarquable, la vache, elle est remarquée. On s'est mis à l'élever. Hein, il y a 11 000 ans, on a les premiers humains de la région qui amènent à Chypre, on a des traces archéologiques, les premiers sangliers. On amène les cochons sauvages, les sangliers aussi, dans les îles de la Sonde, à peu près vers 11 000 années. Hein. Tout ça, c'est pas très loin de la Méditerranée que ça va partir, beaucoup de ces aspects-là, et en Asie aussi. Hein. On voit aussi les humains, c'est le loup le premier qui a été domestiqué. Ce sont des loups chinois, c'est très bien typé maintenant, moléculairement, génétiquement. C'est le loup chinois qui a donné le chien. Le loup devient le chien, et le loup est très particulier pour suivre les humains. Il va s'adapter à des tas de choses. On fait des manips maintenant en laboratoire très intéressantes sur l'intelligence du loup-chien, du chien-loup et du chimpanzé. Le chimpanzé est bien plus intelligent, mais des trucs que le chien fait mieux. Par exemple, si je fixe un récipient dans lequel il y a la nourriture, le chien ne sent pas la nourriture, on l'a bien isolé, eh bien, je fixe très intensément l'endroit où il est, le chien le trouve tout de suite. Le chimpanzé, il ne répond pas à ça. Donc c'est vraiment une habituation de chiens élevés avec des humains. On arrête des petits chiens élevés en chenille, élevés dans une famille. Tout ça pour vous montrer la proximité entre ces loups devenus chiens et ces chiens adaptés à l'humain aujourd'hui. Et puis après, la chèvre après arrive et tout ça. Donc on domestique la vache et la vache nous pose des problèmes. Il y en a beaucoup trop sur la Terre, hein. 1,5 milliard de vaches. Donc il y a une biomasse de vaches sur la Terre beaucoup plus grande que la biomasse d'humains. Et tout ça pose des problèmes. En plus, il y a plein de gens qui ont des vaches et qui ne les mangent pas. À Madagascar, en Inde, on a des vaches parce que c'est le symbole de richesse. On a des femmes et des vaches. Voilà. Donc, on démontre qu'on est riche et qu'on est important parce qu'on a des vaches, sans les manger. Et ces vaches posent des problèmes considérables aujourd'hui. Mon discours est très clair, manger moins de viande et moins de poisson, c'est vital quand on sera demain à 9 milliards. Et à 7 milliards, déjà pas mal. Alors, n'oubliez jamais les micro-organismes. Là, c'est une goutte d'eau de mer à Banyuls. Je peux prendre la même à Arcachon. On faisait le même travail quand j'étais à Arcachon, mais on n'a pas les techniques à l'époque de cytométrie en flux qu'on a maintenant. Donc, on va trier les cellules. Et on met en évidence une incroyable diversité biologique en espèces. Il y a des milliards de virus, des millions de bactéries, ce qu'on appelle micro-algues, qui est un monde extrêmement vaste, dans une goutte d'eau de mer. Et je dis souvent, en fait, moi j'ai trois écosystèmes que j'adore, en fait il suffirait de travailler là-dessus. Une goutte d'eau de mer, vous la prenez où vous voulez, un morceau de forêt tropicale, et un intestin humain. Voilà. Et avec ça, je peux raconter l'histoire du vivant sur la planète. Ramener à l'humain, bien sûr. Mais si je raconte ça pour l'intestin humain, c'est pareil dans l'intestin du hérisson, hein, ou de la limace, c'est la même chose. Alors, l'histoire a commencé dans l'océan. Hein. On est à peu près ici vers 3,85 milliards d'années. Donc, cet océan, il s'est condensé, il est refroidi. Et là, dans des zones proches de la côte, des zones côtières, de cette chimie prébiotique issue de la géodiversité, naît le vivant. Avec la première cellule qui va se cloner, on l'appelle Luca, le premier ancêtre, on parle beaucoup de ça en ce moment, c'était qui, comment, et il se divise dans l'océan. Et pendant longtemps, la diversité, elle est assez faible, parce que quand vous faites des copies de la maman, il n'y a pas de cellule fille ou garçon, mais si je prends ça comme exemple, je mets deux guillemets, hein, je fais des filles, de filles, de filles, de filles à l'infini, sans une grande diversité. Il faudra attendre vers 1,5 milliard d'années l'apparition du sexe chez des bactéries. Alors le sexe chez les bactéries, ce n'est pas très branchant. Hein. Il n'y a pas une fille, il n'y a pas un garçon, il y a une A, une B. Hein, mais elles font un truc fabuleux, elles échangent ce qu'on appelle un transfert latéral de gènes, et elles ont une puissance de feu génétique, de réaction à des changements extérieurs extraordinaires. La sexualité a été vraiment un des grands moteurs de l'évolution et du vivant pour faire la diversité dont on parle aujourd'hui. Par contre, vous savez, il y a plein d'espèces qui se dérouillent très bien sans mâle. Hein. Plein d'espèces, il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a beaucoup d'insectes, il n'y a que des filles. Mais comme elles sont toutes seules, elles font des filles, deux filles, deux filles, et c'est des copies de la maman, bien sûr. Hein. Et quand ça va mal, hop, il y a un garçon qui apparaît. On fait un garçon, on échange des gènes et hop, on répond à l'agression du changement qui s'y produit. Et c'est une vraie question qu'on pose souvent avec mon copain Gouillon. Hein. Pourquoi la nature a-t-elle toléré les mâles ? Ça sert à rien, absolument à rien. Le mâle, il sert à quoi ? Pendant une fraction de seconde minable, il délivre un tout petit peu de patrimoine génétique à une femelle qui ne peut pas faire ça toute seule quand elle veut effectivement faire un brassage de gènes. C'est super puissant pour nous défendre contre un changement et surtout pour nous débarrasser de nos parasites. Et c'est la meilleure explication qu'on ait trouvée, en fait. Les mâles existent pour nous débarrasser de nos parasites. Alors, j'ai mes étudiantes qui ont un sourire jusqu'aux oreilles quand je raconte ça, mais on a vraiment cherché, effectivement, les raisons. Hein. Alors, l'histoire de la vie, bon, rapidement, les grandes dates, ça, c'est une image très émouvante. Hein. C'est le plus ancien fossile qu'on ait au muséum à Paris, daté à 3,450 millions d'années. C'est une cyanobactérie qui vient d'Australie, de stromatolite, ici. Pardon. Et je vous ai mis l'actuelle. J'aurais pu la ramasser dans une flaque d'eau devant, comment ça s'appelle ici, Cap Science. Eh bien, Cap Science, il y a des flaques d'eau en ce moment dehors, là. C'est propre, mais il y a des choses dedans quand même. Heureusement, d'ailleurs, que ce n'est pas ultra propre. Et là-dedans, il y a des cyanobactéries. Et je vous en ai apporté. Elles sont incroyablement proches en forme de ces cyanobactéries qui existaient il y a presque 4000 millions d'années de différence. Elles sont toujours là, et c'est les premières qui sortiront de l'océan. Ensuite, il y aura l'apparition du noyau, je passe rapidement, la capture des organites qui sont des bactéries de l'époque qui vont s'intégrer dans ces grandes cellules à noyau, ça c'est nous. Hein. Et enfin, le dernier événement important, c'est la pluricellularité, c'est-à-dire que ces cellules qui étaient uniques dans l'océan au départ, elles vont s'agréger pour faire des tissus, des organes, des organismes. Hein. Je veux dire, un humain, c'est 700 milliards de cellules à peu près, plus 10 fois plus de bactéries pour faire l'organisme. Et ça, on a des traces géochimiques trouvées au Gabon il y a 3 ans, en fait, dans des gisements datés à 2,1 milliards d'années. Dernier aspect, c'est la sexualité que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, ensuite, et ça, c'est intéressant pour nous, pour qu'on comprenne ce qu'on est, cette vie, elle est exclusivement océanique. Alors, elle va inventer un fabuleux process, ces cyanobactéries, ce qu'on appelle la photosynthèse, qui est magique. C'est la clé du vivant. Il faut de l'eau. N'oubliez jamais que la première molécule du vivant, avant l'ADN et l'ARN, c'est la flotte. On est tous faits d'eau, ici, dans la salle. Un bébé humain, c'est 3/4 d'eau à la naissance. Nos cerveaux, à tous, en ce moment, c'est 80% d'eau. 80%. On travaille beaucoup, les gens de Neurospin à Saclay, en ce moment, qui sont le centre de recherche sur le cerveau. Eh bien, on travaille beaucoup sur les migrations de l'eau en dehors de la cellule et vers la cellule, qui a un rôle très important dans des maladies comme Alzheimer, par exemple. L'eau, c'est la clé. Il n'y a pas de vie sans eau. Toutes les cellules vivantes, quelles qu'elles soient, sont faites d'eau. N'oubliez jamais cela. Ce n'est pas fait pour laver sa bagnole, hein. L'eau, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental. On a fait un livre il y a 2 ans avec des collègues japonais qui s'appelle « L'eau, la molécule oubliée ».« Water, the forgotten molecule ». Et c'est ça, c'est le plus grand crime qu'on fasse aujourd'hui. On oublie que l'eau est la molécule clé du vivant. Et on la bazarde, on la saoule, on la pollue, on la jette, on la gaspille en permanence. Donc, dans l'eau, vous récupérez le CO2 qui nous embête tant aujourd'hui, là, et puis vous récupérez la lumière. C'est gratos, c'est un cadeau des dieux. Et en échange, vous faites 2 choses fabuleuses, que fait la photosynthèse. Vous faites de l'oxygène. Et vous faites des sucres, et tout est parti de là, en fait. L'oxygène, il va saturer l'océan, et vers 2-4, on voit l'oxygène sortir de l'océan, capté par l'atmosphère terrestre, et faire l'atmosphère, qui plus tard permettra à la vie de sortir de l'océan, vers 445 millions d'années à peu près. Alors, c'est intéressant aussi, tout à l'heure je vous le disais, c'est que quand je mesure ici les éléments de cette eau saumâtre, ça c'est Banyuls ici, alors ça c'est la Méditerranée, ça c'est la petite rivière de la Massane, là j'ai des salinités qui sont le sang humain, à son Nouvelle-Calédonie. Ici, c'est en Chine, ici, c'est à Madagascar, ici, c'est en Guyane. Donc, vous avez des endroits où, sur la côte, la salinité du milieu, c'est votre sang. Et la vie est sortie, elle est passée par là. La vie a très bien pu sortir de l'océan, aller vers la plage et après aller vers les eaux douces. Elle n'est pas forcément passée par l'eau douce à chaque fois. En tout cas, ce qui est clair aussi, c'est que la vie sort de l'océan plusieurs fois, en plusieurs endroits, sous différentes formes, à différentes époques. Ça, c'est clair. Il n'y a pas eu une sortie de l'océan. Puis d'imaginer non plus un truc un jour où une bête océanique sort la tête de l'eau, les beaux écosystèmes que j'ai à l'extérieur là, en plus il y a des gros machins avec des dents derrière qui la poussent là, je vais sortir. C'est pas comme ça. Hein. Pensez à une méduse. Il y en a, en ce moment on rencontre les méduses. La méduse, vous avez une vague qui la jette sur la plage. J'ai vu ça à Arcachon, jette sur la plage. Et là je regarde ma méduse là. Et s'il n'y a pas une vague salvatrice qui revient dans les 2 minutes récupérer ma méduse pour la ramener à l'océan, elle est foutue ma méduse. Elle va se déshydrater, elle va se dessécher. Et puis, elle n'est pas adaptable. Vous imaginez le nombre de milliards de fois depuis que les méduses existent, il y a 800 millions d'années, où c'est arrivé. Les méduses ne sont jamais sorties de la flotte comme ça. Donc, ça veut dire qu'il va se passer des choses dans l'océan sans aucun dessin intelligent, bien entendu, qui vont faire qu'une partie de la faune et sa démarche et des crustacés vont inventer un sang qui n'est plus le sang qu'avaient toutes les espèces vivantes auparavant, qui était de l'eau de mer, en fait. Hein. Et c'est le vôtre aujourd'hui, 302 milliers osmoles. L'océan, c'est 1050. Donc ça veut dire que là, ces bestioles-là pourront sortir de l'océan. Et pour moi, un des records du monde de merveilles d'adaptation en physiologie, c'est le petit crabe chinois, qui est tout con, un crabe chinois. On le bouffe, on l'élève maintenant. Le crabe chinois, il vit dans l'eau de mer complète, même profonde et puis très salée. Il adore l'eau saumâtre. Il court sur la plage, il va en rivière et il grimpe aux arbres. C'est magique, ça, comme physiologie. Réfléchissez un petit peu à ça. Hein. Et vous aurez beaucoup plus d'amour pour mon crabe chinois après quand vous verrez la prochaine fois. Ils ont trouvé des astuces il y a 445 millions d'années pour être capables de sortir de l'océan. Alors, une question où je termine là-dessus aussi, on me dit souvent, pourquoi la vie sort des océans? Il n'y a aucune réponse scientifique à une question comme ça. Pff, j'ai envie. Par contre, comment je peux répondre? Pourquoi au début, il n'y a que deux groupes qui sortent, qui sont effectivement les arthropodes et les poissons? Ça, on peut répondre à une question comme ça. Et bien plus tard sortiront les mollusques. C'est intéressant parce que les mollusques ont bien réussi au niveau terrestre aussi, les pulmonés, les escargots. Hein. Ils sortiront au Permien. Donc ça veut dire qu'au tout début, fin silurien, donc dévonien, on va sortir effectivement les arthropodes, hein, qui vont donner plus tard les insectes. Et aujourd'hui, les insectes ont tellement réussi. Quand on fait nos expéditions là aujourd'hui, quand on cherche des insectes, je vous ai 2 millions d'espèces connues, plus de la moitié sont des insectes. Où qu'on aille au monde, quand on fait un inventaire, il y a 55 à 60% d'insectes. Terrestres, hein, ils ne sont pas marins du tout, les insectes. Hein. C'est intéressant d'y réfléchir, bien sûr. Ça, c'est votre sang à vous aujourd'hui, et c'est les contenus également de l'océan dans la zone côtière. Alors, la vie sur des océans, plein de fois, et puis quelle bestiole, hein, ça, c'est des mille pattes de 2,50 m qui sont au muséum, venez les voir, hein, des scorpions de 2,50 m. Je vous rassure, ils ne passent pas la troisième grande crise d'extinction, ces trucs-là, il n'y en a plus. Hein. Il n'y avait pas de prédation dans les forêts du Carbonifère, donc d'énormes invertébrés hein, qui sortent et puis qui se baladent en fait, dans les forêts. On parlait de deux casse-villes, j'ai pu c'était hier soir en disant bon, c'est moche, n'empêche qu'ils ont des fossiles fabuleux de ces bestioles qui font rêver des libellules de 80 cm d'envergure. Oh, ouais, ça existait. J'ai vu des dinosaures en arrivant tout à l'heure, je ne m'attendais pas à trouver ça à Bordeaux, hein, qui sont reconstitués, vous voyez un peu. Hein. Et puis l'histoire continue dans les forêts, et là c'est l'explosion des formes de vie dans les forêts du Carbonifère il y a 345 millions d'années, avec des formes très grandes d'insectes effectivement. Et les forêts tropicales actuelles sont de très loin les endroits où il y a le plus d'espèces au kilomètre carré que l'on peut recenser. Je vous ai mis une image ici d'Ouganda et ici une image de Guyane. Donc c'est parti, ça explose. Hein. Et cette histoire n'a pas été un long fleuve tranquille, puisque au début, on ne connaît pas grand-chose. Hein. Donc on va démarrer à 800 millions d'années. Je vous dis la vie, 3,8, 3800. Pas beaucoup de formes au départ. Alors ayez en tête le système suivant aussi, c'est que le vivant se diversifie, donc tous les jours, il y a plus d'espèces qu'auparavant. Hein, au départ, il y avait une seule espèce, la bactérie primitive, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, la cyanobactérie. Et au fur et à mesure où l'évolution se passe, il y a de plus en plus d'espèces. Le problème, c'est que quand on parle des taux d'extinction, il faut ramener ça à des épisodes du passé. On en a eu des épisodes d'extinction extrêmement forts. Hein. Le plus grand qu'on connaisse, c'est vers 252,4 millions d'années, la limite entre le Permien et le Trias, entre l'ère primaire et l'ère secondaire, 96% des espèces s'éteignent. Marine et continentale, et on a la chance d'avoir en Chine un gisement qui s'appelle Meishan, on travaille beaucoup dessus, les gens du muséum là-dessus. On a pu reconstituer à l'époque les contenus en oxygène et en CO2 de l'eau de mer et de l'air. Il y a un effondrement à ce moment-là, il y a d'énormes émissions de gaz à effet de serre, de méthane, de CO2. C'est le très grand volcanisme en fait des trappes de Sibérie, la Sibérie actuelle. Tout ça va bouleverser le climat terrestre, 6 degrés de plus. Et tout ça explique donc cette troisième grande crise d'extinction qui a vraiment failli faire disparaître le vivant. Hein. Regardez ici, il y a des fossiles du primaire, il y a des fossiles du secondaire, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu, et le banc 25, il est vide de fossiles. Hein. Il n'y a pratiquement plus rien. On aime bien les oursins, avec Guy, on parle des oursins. Il y a 700 espèces d'oursins sur la Terre aujourd'hui. Je suis bien connu, 700 espèces. Il y en avait 500 dans les fossiles du Paléozoïque. Deux espèces, un seul genre passe du Permien au Trias. C'est le rat de la culotte pour les oursins. Hein. Ça veut dire aujourd'hui que les 700 oursins qu'on a aujourd'hui sont repartis de ces deux espèces qui ont réussi à passer du Permien au Trias, qui s'appelle Myosidaris. Alors, c'est intéressant parce que dans une crise d'extinction, il y a beaucoup de perdants, il y a quelques gagnants. Le Myosidaris, il est ravi parce qu'il a complètement réorienté l'évolution des oursins pour la suite, hein, bien entendu. Et n'oubliez jamais une seconde chose non plus quand on parle du vivant. Si on est là ensemble ce matin à discuter, c'est parce qu'il s'est passé des événements antérieurs. Si le dinosaure à point bleu n'avait pas vu la femelle à point rouge il y a 215 millions d'années, ce ne serait pas là aujourd'hui. Il va se passer un événement qui va déclencher quelque chose qui fait que nous existons à l'heure actuelle. On est tous issus d'une histoire hein, qui est la même sur cette planète qui est pour l'instant la seule que l'on puisse habiter. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse un petit peu plus. Donc, on a beaucoup travaillé sur les crises d'extinction. Celle-ci est très célèbre dans le public parce que c'est la fameuse extinction dite des dinosaures. Ce n'est pas aussi clair que ça. Il nous en manque 70% quelques millions d'années avant. Il y a quelques-uns qui vont passer la crise. Puis il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. La crise Crétacé-Tertiaire, les poissons d'eau douce ne s'en sortent pas si mal que ça. Les crocodiles passent très bien la crise. Hein, donc les tortues passent très bien la crise aussi. Donc on en reparlera. Alors quels sont les grands moments qui ont fait de l'humain animal l'humain actuel? Trois grands événements. La domestication du feu vers 800 000 ans. Les foyers attestés allumés par des humains sont en Israël. Deuxième date, c'est le néolithique. Là, les femmes se mettent à faire beaucoup de bébés. Hein, on est vers effectivement 8-12 000 ans. On va faire les premières domestications. Et puis, on va cultiver les premières plantes. Tout ça dans le même endroit. On est dans le triangle, dans le Tigre et l'Euphrate, hein, toute cette zone, le croissant fertile, on est là, en fait. Hein. La Méditerranée a été le centre de beaucoup, beaucoup de choses. L'homme sort d'Afrique par le Sinaï, de toute façon. Donc, il passe forcément par là. Il s'installe là, et après, on va vers l'Asie, bien sûr, hein, et puis on migre aussi vers l'Ouest. Donc, c'est très important d'y réfléchir. Et la troisième grande date, c'est la machine à vapeur. Hein. Et là, effectivement, du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. On passe du cheval animal au cheval vapeur. Et ça va tout changer. Et en quelques siècles, quelle que soit l'échéance, on va épuiser les réserves, effectivement, d'énergie fossile accumulées durant des centaines de millions d'années pour nos besoins propres. Alors, regardez l'humain, je vais vous montrer quand même de l'espoir dans l'humain. Hein. Ça, j'ai eu la chance en dernier d'accompagner Jean-Marie Chauvet. Il m'a emmené voir sa grotte. C'est fabuleux, fabuleux. Vous êtes là-dedans. Hein. Ils ont le droit à deux fois dix personnes par an. Oui, il faut être privilégié. Hein. 26 000 et 33 000 ans, c'est deux fois plus vieux que Lascaux. Ceux qui ont dessiné ça, ils n'avaient pas les lionnes devant eux. Les lionnes de Chauvet sont fabuleuses. Hein. Qui dessine comme ça? J'ai ça à mes étudiants. Hein. Puis j'ai des amphis de 600 à Paris. Qui dessine comme ça dans l'amphi? Il n'y a pas un seul capable de faire ça. Elle n'est pas devant lui, la lionne. Il l'a vu 3-4 jours avant. Et pourquoi pas devant elle, d'ailleurs? On pense que des femmes, peut-être que ce sont des femmes qui ont fait ces dessins. Moi, j'aime bien y penser. Donc on dessine des lionnes, on dessine des chevaux. On fait des véritables dessins animés. Hein. Les rhinocéros sont plus à Lascaux, parce que Lascaux, ils ont déjà disparu. Hein. Lascaux était à 16 000 ans. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Le seul endroit où on a effectivement une panthère et une hyène aussi. Alors, question, on revient à l'utilitarisme. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Et je disais, pourquoi Ératosthène va s'embêter à calculer 3 siècles avant Jésus-Christ la circonférence de la Terre? À quoi ça sert? On ne l'a pas fait, on vit quand même pas si mal que ça. Hein. Donc n'oubliez jamais ça quand on nous dit qu'il nous faut un monde utilitaire. Gardons ce qui est utile à l'humanité, jetons le reste, ça n'a pas de sens. D'abord, on ne sait pas ce qui nous sera utile demain ou pas, vous verrez tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est clair que l'humain adore faire des choses qui ne servent à rien. Quand vous allez grimper l'Everest, dites-moi un peu, vous allez vous geler le nez, perdre 2 doigts, vous êtes content d'avoir grimpé l'Everest. Alors l'agriculture, bien sûr, sort. Alors quand nous nous arrêtons, il y a 12 000 ans, de bouger, nous sommes 5 millions d'humains sur la Terre. 5 millions. Intéressant de revenir à ça. Et maintenant, on est 7 milliards. Et on fait les villes. Hein, les villes, bien sûr. Donc on est passé de l'océan à la forêt. Et maintenant, on est en ville. En 2007, l'humanité bascule. Il y a plus d'humains citadins que d'humains ruraux. Et puis la biodiversité arrive en ville. Hein. Ça, c'est une carte thermique de Paris en 2003. Durant la grande canicule, on voyait que les zones bleues sont 3-4 degrés moins chaudes que les zones rouges. Hein. Gardons les zones vertes en ville. Ça change considérablement le climat. Et croyez-moi, quand vous êtes sur les extrêmes comme ça, 42, 43 degrés, 3-4 degrés, ça fait la différence. 15 000 morts en France cette année, l'été. Alors évidemment, les personnes âgées qui se retrouvent en détresse physiologique à l'hôpital, en déshydratation profonde, on me dit, ouais, mais de toute façon, votre truc, là, il serait mort quand même. Ah, d'accord, mais enfin, de toute façon, on serait tous morts quand même, de toute façon. Hein. Ça, je veux bien qu'on discute de ça, mais après, c'est une question d'échéance, bien entendu. Hein. Et on voit la biodive qui revient. Par exemple, là, c'est le Père Lachaise. Hein. On voit le matin, vous avez des fouines, vous avez des mares, vous avez des renards. Demain, peut-être que les loups qui sont dans l'aube vont arriver au Père Lachaise, je ne sais pas. Hein. Donc, ça revient en ville, comme ça, dans ces guides. C'est génial, un cimetière à 5 heures du matin. Les humains qui sont là n'embêtent pas beaucoup la biodiversité. Hein. Et puis, vous avez la faune sauvage qui se réinstalle, même s'ils traitent quand même pas mal les plantes qui sont sur les tombes. Donc, on a fait des plans biodiversité, et Paris a adopté le sien en novembre 2011. Les trames qu'on évoquait, qu'on va voir cet après-midi. Alors, ceci a amené un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen, à proposer en 2002 le terme d'anthropocène, la phase de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, hein, la salinité, la longueur du jour, la température, l'acidité, mais la présence d'une espèce avec ses animaux domestiques hein, qui sont sur la Terre. Et donc, là, je vous laisse lire Robert Barbeau en 2006 dans son très joli livre qui s'appelle « Un éléphant dans un jeu de quilles ». Ce qu'il conclut, l'humain est capable de vraiment toucher à tout. Et on prend souvent comme exemple l'île de Pâques ou la mer d'Aral. Ça sera pour une autre fois que je vous raconterai ça. Alors, ce papier m'a beaucoup plu. Science 2011, Fall of the Wild, la fin du vivant, la fin du sauvage. Qu'est-ce qui se passe? On a mesuré ici toutes les disparitions d'espèces. Et vous voyez, c'est très récent. Ce qui m'inquiète, c'est l'accélération. Ça a commencé au néolithique, c'est vrai. Ça a continué à la révolution industrielle, mais ça s'accélère incroyablement aujourd'hui. Il n'y avait pas un problème de surpêche en 1950. En 50. Donc ça fait quoi? Ça fait 60 ans maintenant, 60, ouais, 60, 70 ans. Eh bien, on a multiplié par 3 la population sur la planète depuis 1950. Et on voit disparaître les espèces marines, les espèces terrestres, l'espèce d'eau douce et tous les vertébrés. Et on démarre en 1970, hein, c'est pas vieux ça, hein. C'est en effondrement. Et l'humain accélère sa prise sur la Terre en enlevant, en extrayant du minéral. Ça, c'est ce que l'érosion naturelle enlève à la planète depuis des millions d'années, c'est toujours pareil. 7 milliards de tonnes par an enlevées par l'érosion, les vents, les vagues, la marée, tout ce que vous voulez. Et ce que l'humain enlève dans les carrières, vous voyez que vers l'an 1000, l'humain atteint le même niveau que le non-humain. Et là, c'est une échelle logarithmique, on est à 100 fois au-dessus. Les granulats marins, les carrières, tout ce que vous voulez. Donc on a une présence très forte. Il calcule ça. Alors j'adore qu'on paye des chercheurs pour faire des boulots comme ça. Le type, il a calculé la masse de tous les individus, de toutes les espèces, de tous les mammifères. Environ 5000 espèces de mammifères. Il a pris tous les hérissons, toutes les baleines, toutes les musaraignes. Il a pesé leur masse. Et quand il fait le calcul, eh bien voilà, l'humain et ses mammifères domestiques, c'est 90%. Donc on arrête de me dire qu'on n'a pas une emprise importante sur cette planète, bien entendu. On fait 90% de la masse des mammifères aujourd'hui. Et l'humain et ces animaux domestiques, n'oubliez jamais avec l'humain les vaches, les cochons. Hein, c'est tout ça, il faut mettre tout ça en même temps. Tout ça mis bout à bout consomme plus de la moitié des réserves en eau potable de la planète. Donc il ne reste pas la moitié de l'eau pour l'ensemble de tout ce qui est vivant en dehors de l'humain, des vaches, des cochons et les mammifères. On peut mettre les poulets si vous voulez aussi. Hein. Alors tout ceci a amené un gros travail fait par une trentaine de chercheurs en nature en 2012 pour faire un bilan. Quels sont les impacts des pertes de diversité sur l'humanité aujourd'hui ? Il démontre très bien que les nombres d'espèces sont intéressants, mais beaucoup plus c'est la fonction d'écosystème qui joue. Il nous montre que le nombre d'espèces a augmenté depuis les origines de la vie, ça c'est clair, hein, on est là aujourd'hui. Et que ça, alors il y a une hypothèse haute, une hypothèse basse, bien sûr, une valeur haute et basse, donc on est quelque part là-dedans. Mais il montre que quand on commence à abîmer ces écosystèmes et à détruire les espèces, on régresse en nombre d'espèces, mais beaucoup plus grave, on perd en fonctionnalité des écosystèmes. Ça c'est beaucoup plus important que de compter les espèces. Et vous verrez d'ailleurs, pour revenir à Justine et à l'UICN, quand je vois les chiffres sur le marin, c'est pas un bon critère, les extinctions en mer. Hein, parce qu'aujourd'hui, j'étais à une conférence aux États-Unis où il y avait un type qui disait, voilà, tout disparaît en mer. À la fin, il m'a énervé, parce que c'est pas vrai. Il dit, qu'est-ce qui a disparu en mer ? Il m'a même pas donné une espèce. Moi, j'en connais 18. 18 espèces sont déclarées en 4 siècles, hein, disparues dans les océans. D'abord, il faut être très présomptueux pour un scientifique pour dire qu'une espèce a disparu dans l'océan. Hein. Je sais pas s'il n'en reste pas une cachée, moi, d'ailleurs, le machin à tel endroit. Hein. Ce n'est pas un bon critère en mer. Simplement, c'est un critère, effectivement, d'effondrement des stocks qu'il faut qu'on utilise. Alors, ceci, si on nous prive des services rendus que va aborder ensuite Justine sur ce qu'on va tirer de ces espèces, nos capacités en s'en inspirant pour faire des technologies et à prévoir, bien sûr, l'avenir dans le futur. Alors là, rapidement, le Millennium nous dit effectivement que les espèces sont parties à un rythme. Alors, eux avaient dit entre 100 et 1000. On a revu les calculs, on est environ 300. Les espèces partent à un rythme 300 plus élevé que ce qu'on a calculé par la paléontologie sur les 500 derniers millions d'années, à peu près. Hein. Récemment, hein, le pigeon migrateur américain, les éléphants d'Inde méditerranée, vous imaginez ça, des éléphants adultes, comme ça ? J'ai ça en laisse ici, le succès que j'ai, je ne vous raconte pas. Hein. Elles tombent toutes amoureuses de mon éléphant, ça c'est sûr. Hein. Et bien ils sont partis, on les a bouffés. L'humain arrive en Corse il y a 10 000 ans, il y avait 6 mammifères en Corse, dont le lapin rat, un truc vachement intéressant. Tous bouffés, tous ont disparu, tous les mammifères de Corse. Aujourd'hui, ont été introduits par des humains. Alors, les Corses, ils n'aiment pas qu'on dise ça chez eux. J'ai une grand-mère corse, je peux dire un petit peu. Hein. Mais c'est vrai que c'est comme ça, c'est tout. On arrive à Chypre, on arrive à Rhodes, on arrive en Crète. C'est très intéressant, les îles de la Méditerranée. Hein. On est un tout. Lui, il est très abondant. Hein. Et voilà mon dauphin du Yangtze-Kiang, pour Laura, qui est parti en 2007. Ceux qui étaient sur les peintures de Lascaux, d'Altamira ou de Chauvet sont partis aussi, il n'y en a plus. Alors, ce travail m'a beaucoup plu dans TRI l'an dernier. Ils ont regardé, en fait, trois critères, la population humaine, les émissions de CO2, alors quand on dit que l'humain est pour rien dedans, c'est exactement calqué sur la population, et les pêches maritimes. Ils montrent qu'ici, il n'y avait pas trop de problèmes en 1950. Pendant 20 ans, 40 ans, on pêche de plus en plus, et depuis 25 ans, on pêche rien de plus, malgré de plus en plus de puissance sur les bateaux, de coûts d'effort pour aller les pêcher, et de moyens pour les détecter, on ne pêche pas plus. On est vraiment au taquet, on pêche trop, 90 millions de tonnes, c'est trop. Et on montre que c'est en relation avec la technologie. Ici, on domestique les animaux, on invente l'arc et la flèche, la roue, les villes, l'irrigation agricole, le bronze, les autres métaux, on fait les premières routes, on fait des moulins à eau, on invente la poudre noire, les moulins à vent, la machine à vapeur, les vaccins, le moteur à combustion interne, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs et la révolution verte. Et tout ça est totalement corrélé, effectivement, à l'explosion de la démographie de l'humain aujourd'hui. Alors, bien sûr, nous, on travaille beaucoup sur les... On compare des hypothèses darwiniennes et malthusiennes hein, pour voir comment, dans la trajectoire des civilisations, ceci évolue. Alors, pour terminer, la question qu'on pose, ben, est-ce qu'on est en train de mettre les conditions, en ce moment, d'une sixième grande crise d'extinction, cette fois-ci non plus créée par des phénomènes non humains, mais humains ? Vous avez vu que je dis jamais naturel et humain, hein, parce que moi, je mets l'humain dans la nature. Je me refuse à dire que l'humain n'est pas naturel. Donc, pour moi, il n'y a pas naturel et humain, il y a humain et non humain. Un tsunami est entièrement non humain, hein, une éruption volcanique est non humaine. Une centrale nucléaire qui est démolie parce qu'effectivement, il y a un tsunami qui arrive, ça, c'est totalement humain. Alors, destruction et pollution, surexploitation des stocks, ici, dissémination d'espèces invasives qui deviennent des gros problèmes. Ce petit dinoflagellé, l'Alexandrium, élabore une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Ben, il fait le tour du monde dans les eaux de ballastage des pétroliers géants, allègrement. Et enfin, le climat. Et le climat, ce n'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau des eaux. Et de façon non pas liée au climat, mais liée au CO2, c'est l'acidification globale de l'océan qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Regardez, ça c'est une image qui marche bien, parce que là, si je ne convainc pas les gens avec ça, concours de pêche en Floride à Key West, hein, où le mâle blanc européen, il a le plus gros truc, il est ravi. Vous savez comment sont les mâles blancs européens, ou même africains, ou asiatiques, il fout le plus gros poisson, c'est le mec, avec son poisson. Avec la virilité, elle prend un sacré coup, parce qu'en 2007, il gagne avec 240 grammes de poisson. Hein. C'est tout, voilà. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, au cours des systèmes. Hein. On est passé de moins en moins d'espèces, de plus en plus petites. Et hier, notre ami Blanchard, on était dans son jury de thèse ensemble, eh bien, il nous démontre, lui, que même les valeurs économiques de ce qu'on débarque sont de plus en plus faibles, malgré des moyens de plus en plus difficiles pour aller y chercher. C'est tout. Et regardez, qui fera des photos de morues comme ça hein. Ça, c'était fait en 1902. Il n'y a plus aucune morue comme ça sur la Terre. Hein. La plus grosse, elle ne fait pas 50 kilos aujourd'hui. Alors ça, c'est l'UICN, donc c'est ces chiffres que je te disais, Justine, si tu peux me les remettre au goût du jour. L'UICN nous dit 900 espèces disparues en 4 siècles sur les continents, 18 en mer, ce qui nous montre qu'en mer, le critère d'extinction n'est pas un bon critère. Il faut qu'on travaille effectivement en effondrement des stocks, pas en critère d'extinction. Alors qu'est-ce qu'il faut défendre ? Là, c'est les ONG. Alors bien sûr, on se bat pour ces beaux animaux qui plaisent. La fille, elle va verser une larme. Qu'est-ce qu'il a des beaux cils avec des yeux bleus ? Le mec est pareil. Hein. Souvent, on pose la question, comment vous me donnez pour sauver le tigre ? Allez, alors quand j'ai fait une conf, j'ai 30 euros. Quand j'ai pas commencé la conf, j'ai 20 euros en général. Hein. Donc 20 euros pour sauver le rhinocéros blanc. Partout dans le monde, hein. Chaque veut bien raconter ça. Ils ont fait ça aussi aux États-Unis, c'est très rigolo. Par contre, si je veux sauver la puce des Bermudes, je vous raconte pas. Hein. Je n'ai rien à voir du tout. Hein. Alors s'il faut sauver, c'est le vrac. C'est ça qu'on veut sauver en fait. J'ai même une puce, vous voyez un peu. Mais vous voulez quand même pas sauver les puces. Mais si, tout en même temps, de toute façon. De toute façon, on ne sait pas dire je vais éliminer celui-là et pas celui-là, de toute façon. Et tout ça lié à une espèce qui adore s'agréger. La plage de Bagnols-sur-Mer, le mois d'août. Vous avez des Hollandais, des Allemands, des Français qui s'agglutinent là, sans faire le prélèvement, je ne vous raconte pas le niveau des streptocoques fécaux dans la flotte ici à 6h du soir. Ils ont économisé pendant 6 mois pour se payer 15 jours au bord de la Grande Bleue. Voilà. Tout ça, je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête pour y méditer quand même par rapport aux autres espèces. Quelle place on laisse aux non-humains ? Alors, les papiers scientifiques sont dramatiques, ils nous disent que l'érosion, selon plein de critères différents, elle s'en va, la biodiversité. Les pressions dessus augmentent et les bénéfices que l'humain en tire diminuent. On irait vers une crise d'extinction si on ne change pas nos habitudes. Là, un beau papier, l'an dernier, pour Rio, où ils ont démontré des relations entre l'indice de pauvreté, les impacts du changement climatique et les pertes de diversité. Et au niveau agricole, on fait de la planète un gigantesque agro-système. Ce sont les champs agricolisés. On est rendu à la moitié à peu près aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? On va arriver à ça. Il n'y aura plus que ça. Plus aucune zone sauvage. Ou alors on vient dans l'autre sens. On n'a jamais fait ça. Et le défi est terrible, le défi agricole. 7 milliards, 9 demain, nourrir 9 milliards d'humains. Donc, il faut produire plus, on est d'accord. Sans augmenter les surfaces agricoles, sans empoisonner les gens, sans pesticides, avec un minimum d'engrais, sans détruire la biodiversité, sans gaspiller l'eau. C'est un vrai travail de recherche fondamentale. Hein. Donc, on va avec des agricultures qui sont forcément différentes, bien entendu, hein, que ce qu'on fait aujourd'hui. Là, c'est un beau travail de l'INRA qui travaille sur les arbres en Champagne, où il montre que selon les modèles calculés avec le climat, les arbres devraient faire de la route pour changer. Alors, ils arrivent à monter en altitude, hein, dans les Alpes, ça marche bien. Ils ont fait 100 mètres de mieux en 20 ans, là. Par contre, sur la forêt, ils n'arrivent pas. Hein. Il n'a pas le temps, le pauvre arbre, ça va trop vite, en fait. Il ne peut pas changer à la vitesse du changement climatique. Ce n'est pas la température absolue qui est intéressante, c'est la vitesse du changement. C'est un travail très beau dans Nature, en 2009, où il regarde les limites de la planète pour accueillir 7 milliards d'humains aujourd'hui. Quelles sont les sécurités pour l'humanité ? Et ils montrent qu'il y a plein de facteurs. Hein. Ils ont mis l'acidification, le changement climatique, la pollution chimique, la pollution atmosphérique, le cycle de l'azote, du phosphore, l'usage de l'eau. Et vous voyez que ce qui est terrible, c'est ça. Hein. La biodiversité, elle sort de la courbe. tellement elle s'en va vite. On ne peut même pas la modéliser en même temps que les autres. On est sur des pertes dramatiques de diversité spécifique. Alors voilà, ben on fait des conférences. Rio, 92, Johannesburg, j'en ai parlé, la conférence du président Chirac en 2005, on lance l'idée d'une nation mondiale pour l'environnement, ça n'a jamais marché, on a refusé d'en parler à Rio l'an dernier, la conférence de l'UNESCO que j'évoquais tout à l'heure, la conférence du Rio l'an dernier, deux conférences environnementales en France pour lesquelles on oublie entièrement les scientifiques, il n'y a pas de scientifiques, il y a des ONG, il y a les syndicats, il y a la société civile, il y a les collectivités locales territoriales, mais il n'y a pas de scientifiques. Je ne dis pas qu'il faut en mettre partout, mais enfin, s'il y en avait un petit peu, ça rendrait peut-être quelques services quand même. Hein. Et ça, c'était la conférence de Chantal Joanneau à Chamonix. Quelle gouvernance pour réussir ensemble? On a bien discuté. Qu'est-ce qu'on fait après dans les fêtes, bien sûr? Relations, alors, ça serait une conférence complète entre la santé publique, je fais souvent ça, et la biodiversité. On montre que les pertes de biodiversité déclenchent... L'humain n'invente pas des maladies vraiment nouvelles, et encore à voir. Il y a 400 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1930. Beaucoup liés aux variations des bactéries intestinales. Même les maladies neurodégénératives que j'évoquais tout à l'heure, comme Alzheimer ou Parkinson, ont des relations avec des pertes de bactéries du tube digestif. C'est fondamental. Ce bébé humain qui se contamine, dans le bon sens du terme, par ces bactéries, se crée son écosystème à lui, il est unique. Et ça, les médecins l'ont totalement oublié. C'est extrêmement important. Et là, Kissing raconte que chaque fois qu'on abaisse la biodiversité, et montre le chikungunya à La Réunion, par exemple, ben on déclenche effectivement des disséminations d'espèces pathogènes ou une virulence beaucoup plus grande qu'auparavant. Et coccinelle est arrivée de Chine il y a 3 ans, maintenant c'est une catastrophe. Hein. Elle a ramené deux parasites chez les coccinelles européennes. Alors pour les vignerons, c'est une catastrophe. Hein. Alors le climat qui change, les parasites qui s'installent. On a fait une conférence à Biarritz l'an dernier avec des médecins, justement, en Aquitaine. Hein. Biarritz, c'est pas très loin de là, où le débat, c'était perte de diversité, santé publique. Et c'est très intéressant. Alors, ça, simplement, je vous rappelle que dans cette biodiversité, on va y chercher des médicaments. Je vous ai mis que le marin ici. Hein. 25 000 médicaments sortent de l'océan, anticancéreux, antibiotiques, antiviraux, antichampignons, immunostimulants, tout ça, 30% des éponges. C'est intéressant, les éponges, parce que quand l'éponge est fixée, elle ne bouge plus. C'est comme un arbre, une éponge. Ça, sur Terre, ça n'existe pas des animaux comme ça. Mais en mer, oui. L'animal se fixe, il y a une petite larve qui se balade, elle est fixée. Elle restera toujours là, comme un arbre. Hein. Et là, elle est là depuis 500 millions d'années. Ici, dans la pièce, si ça ne va pas, qu'est-ce qui va se passer là? Il fait trop chaud, trop froid, ça ne sent vraiment pas bon. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Ils ne peuvent pas partir. Donc, ils ont inventé un tas de molécules qu'on appelle les défensines au sens large. Et demain, nos futurs médicaments, ils sont anti-champignons, antiviraux, antibactériens, de ce genre d'activité-là. Ça, ce sont les prix Nobel de médecine acquis grâce à des modèles apparemment sans intérêt. Metchnikoff, c'est l'étoile de mer. Richet, c'est la méduse. Von Warburg, c'est l'oursin. Hodgkin-Huxley découvre la transmission de l'influx nerveux grâce aux axones de Kalmar, qui sont 1000 fois plus gros en section que l'axone humain. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Ce sont des cadeaux des dieux de la biodiversité, ça, bien sûr, pour l'humain. Hein. Kandel, c'est Alzheimer, c'est les bases de la mémoire, grâce à une limace de mer. Tim Hunt, c'est la molécule du cancer qu'il découvre, grâce à une étoile de mer. Shimomura, lui, travaille sur les méduses. Et enfin, le trio Sostak, Blackburn, Grider, en 2009, ont le prix Nobel pour la découverte des mécanismes du vieillissement, grâce à un truc qui vit dans les flaques d'eau, qui ressemble à rien, hein, qui s'appelle Tetraimina, qui est adorable, et qui nous renseigne sur les mécanismes fondamentaux des mécanismes du vieillissement. Elle est où l'arrogance de me dire « je garde que les vaches et les cochons qui me servent à quelque chose ?» On n'aurait pas ça, on n'aurait pas trouvé ça. Et ce que je dis aux médecins, vous avez deux modèles. Vous avez l'humain et la souris, même pas la souris normale, c'est la souris transgénique qu'on va regarder. Et là, encore une fois, servons-nous du réservoir de la biodiversité, bien sûr. Je termine, je vois qu'elle est inquiète, je termine. Alors simplement, il y a quand même quelques notes d'espoir pour terminer. Des travaux qui nous montrent ici en mer, par exemple, qu'on peut, avec des réserves marines, en faisant attention, ramener le retour d'espèces dans les écosystèmes. Alors, face à une agression, ou bien il n'y a aucun effet, ou bien il y a un effet temporaire et après on revient au niveau antérieur, soit on peut très bien s'éteindre, effectivement. Donc on montre des systèmes où les espèces s'amenuisent, reprennent ou ne reprennent pas. Ça, c'est un travail qui a été fait. Alors, là, ils ont pris des différentes espèces. Il y a 2 requins ici. Ici, c'est un poisson. Ici, c'est la tortue verte. Et ici, c'est des canards. Donc, ils montrent qu'on a réussi, en protégeant ces espèces, sur 40 ans, à ramener des populations à des niveaux à peu près, pas forcément de ce qu'ils avaient antérieurement, mais pas si mal que ça, en tout cas mieux que ce qu'on a vu à ce moment-là. Donc, la question, je termine là-dessus, c'est réconcilier, on en a beaucoup parlé hier, écologie et économie, et surtout mieux partager les ressources. Hein. Quand on est dans un monde où 20% des humains contrôlent, gèrent et consomment 80% des ressources, enfin, bon, c'est pas possible, bien sûr. Il faut qu'on change ce mode de vie. Hein. Tout le monde est d'accord, il faut changer. We have to change. Tous les hommes politiques me disent ça, tous les Mais comment on change? C'est là qu'est la vraie question, en fait. Hein. L'empreinte écologique, je passe. Alors, ça, c'est le PIB, qui était la clé d'or du progrès. Hein, ça, c'est l'augmentation du produit intérieur brut français sur 40 ans. C'est une branche d'hyperbole qui descend, c'est quand même pas terrible. Hein. Et voici la plus grosse mine du monde. Hein. Plusieurs milliards d'euros, c'est un budget de chef d'État pour faire la plus grande mine au monde. Elle est en Nouvelle-Calédonie pour exploiter du nickel. On va vendre des montagnes de Calédonie entières à la Chine et à la Corée. Et c'est Costanza qui dit « La croissance du PIB aujourd'hui n'est plus du tout un indice de bien-être ». Et il dit « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Oh, je rajouterais conventionnel quand même pour mes amis qui sont là. Hein. Parce que bon, Costanza est bien choqué comme ça. Il a fait un papier cette semaine, je trouve qu'il a changé. Hein. Dans Nature, cette semaine, il y a un papier de lui où il revient sur effectivement ces questions d'arrêter de croire à une croissance infinie dans un monde fini. Et ça, c'est un travail qu'on a modélisé avec des médecins publié au mois de décembre dernier avec mes amis médecins à Paris. On a modélisé la démographie humaine, la durée de vie, et la consommation énergétique, ça coûte très cher de vivre vieux, en fait. Hein. Et on montre qu'effectivement, il y a bien eu une augmentation de la durée de vie. Les Français ont pris 35 ans d'espérance de vie en un siècle. Ils sont en train de s'arrêter. On est au taquet aujourd'hui. On voit que les femmes françaises ont perdu 3 mois d'espérance de vie l'an dernier. Les Japonaises et les Américaines d'ethnie blanche, ça fait 4 ans qu'elles commencent à perdre l'espérance de vie. La différence homme-femme diminue. Et puis en Russie, après la désagrégation du système soviétique, ils ont perdu 10 ans d'espérance de vie en 19 ans. Hein. Vive la vodka, hein. Mais c'est pour vous montrer en fait qu'en désagrégeant le tissu social, bien sûr, on va vers des choses très, très, très inquiétantes. Voilà, donc, passer d'une économie anthropocentrée telle qu'elle est là aujourd'hui, on crée de la richesse en détruisant la nature et en surexploitant, à un système où on fait l'inverse, hein, on est éco-centré, on rémunère des gens, on crée de la richesse en protégeant les écosystèmes, en en tirant parti, en faisant vraiment de la soutenabilité, de la durabilité et puis des ressources vivantes renouvelables. Les poissons, aujourd'hui, on les enlève tellement vite qu'ils ne peuvent pas se renouveler. C'est comme du nickel, le poisson, aujourd'hui. Ça, c'est le travail, je suis fini là-dessus. C'est le travail que je citais tout à l'heure de Bateman à nos amis. C'est un joli travail où ils ont regardé, en fait, les distributions de l'agriculture en Angleterre. Ils font des scénarios en fonction du type d'agriculture que l'on va faire. Et ils regardent, effectivement, les systèmes donc, d'usage non-marché, d'usage marché, monétaire, non-monétaire. Ils font des comparaisons. Et ils montrent que, selon ce qu'on va faire, on peut totalement changer, effectivement, économiquement, et en valeur, l'exploitation de nos écosystèmes. Voilà. S'inspirer du vivant, ça c'est le travail du livre de Robert Barbeau et de Jacques Weber, hein. S'inspirer des formes, des mécanismes, des relations durables, avec une très grande interdisciplinarité, la vie qu'est l'entreprise. Hein. On travaille beaucoup là-dessus, on crée un centre international à Senlis en ce moment. Alors pour finir, donc, la biodiversité quoi ? C'est une priorité scientifique, enrayer son érosion, économique, hein, c'est absolument évident, partager ses ressources, les valoriser, les maintenir, éthique, hein, pourquoi on ferait disparaître la moitié des espèces en 2 siècles, c'est une bonne question, hein. Et enfin, bien sûr, social. Chaque fois que vous touchez à l'environnement, vous avez un impact social. Et ça, pour les hommes politiques, c'est important. On regarde, par exemple, l'accès à un parc de verdure au sein d'une grande ville. Je cite souvent ce travail-là de Pofam de 2009. Dans The Lancet, c'est pas une revue écolo, The Lancet. Hein. Et bien, il démontre effectivement que si vous avez accès à passer 60 ans à un parc au sein d'une grande ville, vous n'avez pas la même fin de vie. Il montre que ça gomme les inégalités sociales pour les gens qui ne peuvent pas partir. Ça, c'est de la vraie écologie urbaine aussi, bien entendu. C'est ma dernière image pour rassurer la maîtresse d'œuvre. Là. Question qu'on avait posée en 2010 au Muséum. L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? On a fait un colloque avec un livre qui est sorti, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. On prépare le tome 2. Je vous invite à venir au Collège de France les 22 et 23 mai prochains. C'est ouvert à tous. Hein. On fera le tome 2. Là, on s'était beaucoup évertués à réfléchir à l'État. On avait tous les mondes. Jacques Delors était avec nous. Il y avait Bernard Chevassu, il y avait Robert Barbeau, il y avait Lecointre, il y avait des médecins, Toussaint et ses collègues. Il y avait Michel Morand, Jean-Claude Amezen, tous gens que vous connaissez, intéressants, étaient là. Ils vont revenir donc au collège là, 4 ans après pour qu'on propose des solutions. J'espère qu'on va essayer d'aller plus loin. Et ce sont mes derniers commentaires. Cette jeune fille, elle a 15 ans, elle fait ses courses en Namibie. Je ne sais pas où elle met sa carte de crédit, comme je dis souvent, hein, où la cache. Bon. Et elle achète effectivement de l'eau des viandes dans des bouteilles qui relarguent du bisphénol de type A, hein, produit par les pays industrialisés, bon. ou la Volvic, en tout cas, c'est des eaux qui sont introduites en Namibie. C'est ça, la mondialisation. Hein. Alors ça, j'adore. En fait, on a trouvé ça dans un cimetière amérindien des îles de la Reine-Charlotte. On était à l'ouest du Canada, au nord de Vancouver. Ils avaient ouvert des tombes. Ils avaient balancé un crâne, je ne sais pas pourquoi. Hein. Dame Nature avait poussé de la mousse sur ce crâne. Ah bien sûr, je gratouille tout le temps, hein, c'est mon rôle de biologie, je gratouille, ça grouille de bestioles. Hein. Il y a des colamboles, il y a des acariens, il y a des petits coléoptères, mais l'humain qui est en dessous n'est pas tellement là pour s'en rendre compte. Donc faisons un peu plus attention. Merci.
Alors, l'inquiétude qu'il y avait dans mon regard n'était pas uniquement liée à la modification de notre programme dans le temps. C'est vrai que, bon, voilà, tout simplement d'entendre à nouveau toute cette grande histoire me laissait un peu perplexe. Je vous propose donc de modifier légèrement ce que l'on avait prévu en termes de timing et des échanges pour laisser un petit peu de place à des questions après cette conférence. Je pense que... Sauf si personne n'a de questions ou de remarques. Mais si, voilà. Alors.
Un ancien collègue de Gilles, effectivement, à la station marine d'Arcachon, il y a longtemps. Moi, j'y suis toujours. Désolé, je suis resté. Bon, j'avais pas beaucoup de questions, mais peut-être un certain nombre de remarques, enfin deux ou trois remarques, parce que je ne veux pas monopoliser non plus. Tu nous as dit pour commencer que la biodiversité, ce n'est pas un catalogue d'espèces. Je suis assez d'accord avec toi, parce que je pense que tu privilégies plutôt l'aspect fonctionnel, bien effectivement. Sûr, oui. Mais je dirais quand même qu'un catalogue d'espèces, c'est une bonne base.
C'en est une.
Et ben, je voudrais faire une remarque simplement à ce sujet. C'est qu'on a parlé du bassin d'Arcachon. Qui est un milieu qu'on connaît bien, qu'on explore depuis des siècles, même d'un point de vue biologique, et on continue toujours à trouver des espèces bien nouvelles sûr, dans sûr. Le bassin d'Arcachon. Donc c'est quand même extraordinaire. Et c'est pour souligner effectivement le point que tu as évoqué, comme quoi on est loin d'avoir
on trouve aujourd'hui
complètement inventorié la biodiversité.
800 espèces nouvelles en Europe par an. C'est quand même pas mal pour l'Europe, la vieille Europe. 800
tout
par an.
Fait. Tout à fait. Deuxième point, quand tu dis, enfin, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est moi qui l'ai noté. Une question, la nature fait-elle des choses qui ne servent à rien ?
Pas la nature, l'humain adore faire des choses pour lui qui ne servent à rien.
Ouais, mais alors la moi, nature, ça m'a fait penser
à ce que veut la nature.
Un peu en relation avec ce que tu disais. Tu avais l'air de dire que bon, c'est la nature expérimente un petit peu.
Oui, beaucoup. Même.
Effectivement. Oui. Deux espèces de crustacés qui se différencient par la présence d'un poil sur le deuxième article du Péréopode 3.
D'abord, sens des espèces, c'est une vraie question. Hein. Sens de bonnes espèces, c'est une vraie question. Hein.
Ouais. Alors, est-ce que ce sont vraiment des choses, des espèces différentes qui ne servent à rien ?
Moi, je dirais jamais qu'elles servent à rien. Hein. Je dirais jamais qu'elles servent à rien. Jamais, je dirais ça. Hein.
Mais bon, peut-être que justement, si la nature les a créées, c'est parce qu'il y en a une qui a peut-être une fonctionnalité qui
possible.
Nous échappe, qui est un...
Tout est possible. Ouais. Le problème, si tu veux, c'est que moi, j'aime bien la botanique et puis l'entomologie. Les botanistes sous-décrivent 300 000 plantes sur la Terre, ça paraît quand même pas beaucoup, tout compris 400 000 coléoptères. Et on se demande beaucoup au muséum si les coléoptéristes n'ont pas tendance à surdécrire et les botanistes à sous-décrire. En plus, maintenant, on a regardé la synonymie, c'est qui nous empoisonne l'existence, c'est terrible pour nous. Hein. En plantes, il y a un travail sorti en Pologne récemment où ils disent que un tiers des plantes dans les herbiers mondiaux sont des synonymes. Donc il n'y aurait que 200 000 plantes sur la Terre, ce qui ne paraît pas beaucoup. On connaît 10 000 espèces de bactéries, mais c'est quoi une espèce de bactérie ? Donc c'est pour revenir à ça, et surtout un truc qui embête beaucoup les écologues, c'est qu'on va, finir par dire qu'il y a des espèces qui n'ont pas la même valeur fonctionnelle que d'autres, en fait. Quoi. Et ça fait hurler, ça donne des boutons à beaucoup de gens, mais. Les keystone species, les espèces clés de voûte, probablement sont la clé de beaucoup de choses, justement. C'est intéressant. Mais je me refuse à croire que mes 400 coléoptères sur mon arbre de Colombie sont tous absolument indispensables à sauver pour sauver l'écosystème de Colombie, tu vois. Tout ça, après, ça devient... Il y a autant de philosophie que de science là-dedans, hein, mais c'est des vraies questions qu'il est grand temps que les écologues se posent. Hein, et taxonomistes aussi. Mais tu as raison dans ce que tu dis, je suis d'accord avec toi.
Un dernier point, je suis content que tu l'aies évoqué vers la fin, c'est le problème des espèces invasives. Ah oui. Les introductions d'espèces qui sont vraiment en train de bouleverser nos écosystèmes à l'échelle planétaire. Et il faut y accorder vraiment une attention très particulière.
Vous avez vu qu'il y a un nématode de Nouvelle-Zélande en ce moment, qui est un ver qui est dans le sol, qui bouffe les vers de terre. Hein. Et quand vous connaissez l'importance des vers de terre, c'est effroyable. Hein, et c'est dans l'indifférence générale, tout à fait d'accord avec. En mer, on a des exemples fantastiques. Hein. La mer est vraiment un milieu où ces ballastages de grands bateaux nous créent des conditions de dissémination effroyables, effroyables. Et je ne parle pas des pathogènes, où vous avez le palu qui tous les jours arrive à Roissy, de Bombay, qui arrive d'Afrique ou d'Amérique. Hein, des gens qui attrapent des maladies sans jamais avoir bougé en fait, de Roissy en France, hein, bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ?